you may have noticed.
Comme vous l'avez peut-être remarqué, difficile de faire plus différent que le prochain président américain et moi-même. Nos points de vue sont très divergents, mais la démocratie américaine est plus importante que n'importe quelle personne. Dans les prochaines semaines, mon administration fera tout pour que la transition soit la plus douce possible, car c'est ainsi que doit fonctionner la démocratie.
Une plongée dans les coulisses de la Maison Blanche par l'un des hommes forts et hommes de l'ombre de la présidence Obama, l'Américain Ben Rhodes, qui publie aujourd'hui aux éditions Saint-Simon, en français, Obama confidentiel. Conseiller à la sécurité et aux relations internationales, dans le New York Times Magazine, l'écrivain reporter David Samuels le décrit comme la voix la plus influente ayant façonné la politique étrangère américaine. Presque le gourou de Barack Obama, la voix et la plume, puisqu'il a écrit tous ses discours en lien avec les affaires extérieures. Un livre best-seller aux États-Unis, dont le documentaire The Final Year montre l'activisme des 12 derniers mois de l'administration Obama sur la scène internationale et qui s'en est inspiré, ce film, de ce livre de notre invité Ben Rhodes. Un film qui se solde aussi sur les visages défaits de l'entourage de Barack Obama le jour où Donald Trump est élu, dont celui de notre invité, les larmes aux yeux. Ben Rhodes, bonjour. Et bonjour, bonjour à votre voix française, Robert Wolfenstein. Ce scénario, Ben Rhodes, jusqu'au bout, celui de l'élection de Donald Trump, vous ne l'aviez pas imaginé?
Non, il me paraissait pratiquement impossible que les États-Unis élisent Donald Trump. Alors, le pays qui avait élu Barack Obama était allé trop loin pour reculer ainsi et voter pour quelqu'un, élire quelqu'un qui représente exactement l'inverse de Barack Obama, l'inverse de tout ce qu'il représente, l'inverse de toute sa politique, surtout vis-à-vis du reste du monde. Donc pour nous, c'était un véritable choc lorsque les résultats sont arrivés.
Ce type de retournement au cinéma, on appelle ça un twist ending, une fin inattendue qui amène à revoir ou à réinterpréter l'ensemble du film sous un jour nouveau. D'ailleurs, ce jour-là, devant la caméra, vous dites, il y avait beaucoup à digérer pour comprendre ce qui s'est passé. On vous voit, vous êtes sorti de la salle où sont réunis l'ensemble des conseillers de Barack Obama. Vous êtes devant votre téléphone portable et vous tentez de comprendre ce qui vient de se passer. Quelle leçon en avez-vous tiré après coup?
C'est un peu comme un film d'épouvante, on ne connaît pas encore la fin, on ne sait pas comment ça va se terminer. Il m'a fallu un certain temps, effectivement, pour digérer les résultats de l'élection. Et donc l'élection de Donald Trump, j'ai écrit un livre sur les conversations que j'avais eues avec Barack Obama à l'issue de l'élection. On se retrouvait dans la limousine présidentielle, on allait prendre l'avion officiel, Air Force One, la fin de notre dernier voyage officiel. Et puis il m'a dit, mais et si on s'était planté, si on s'était trompé, si j'avais peut-être 10, 20 ans d'avance sur mon temps, en quelque sorte, si mes idées n'étaient pas encore mûres. J'y ai réfléchi, je me suis dit que ce qu'il était en train de me dire, c'est que les forces de progrès ou les gens comme Obama et moi-même s'imaginent que l'histoire va dans un certain sens et que l'Amérique devient plus tolérante, plus inclusive, qu'elle accueille plus favorablement les immigrés, plus tolérante et ouverte aux différents groupes ethniques, par exemple. Mais on se dit bien qu'en fait, le cours de l'histoire n'est pas linéaire, il y a toujours des revers. Et l'enseignement que j'ai tiré de l'élection de Donald Trump, c'est que l'Amérique est un pays, disons, divisé, ou disons un pays où il y a deux romans conflictuels. Il y en a un roman national qui est un roman de progrès, l'ouverture de droits à davantage de gens. C'est l'histoire que représente Barack Obama. Et puis il y a un contre-narratif, en quelque sorte, le récit ou le roman réactionnaire représenté par Donald Trump, qui dit rendre la grandeur à l'Amérique, revenir à un passé glorieux, écarter les immigrés, diviser pour mieux régner, selon des lignes raciales en particulier. Et donc, s'il y a une leçon que j'ai tirée, c'est que l'histoire n'est peut-être pas achevée, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'histoire n'avancera pas au bout du compte dans le sens où Barack Obama l'a lancé. Et je continue de penser que, même si cela paraît un peu difficile en ce moment aux États-Unis, je continue de croire que l'avenir va ressembler davantage à ce qu'avait tracé Barack Obama.
Il vous dit, lors de cette conversation dans la limousine que vous surnommez la bête, il vous dit, si ça se trouve, on est allé trop loin. Les gens ont peut-être simplement envie de rester chacun dans leur petit coin. Ça ramène à cette distinction qui a été faite entre les deux électorats, entre les deux Amériques, à cette fracture entre les world people et les web people. Les world people comme le mur, à qui vous n'auriez pas su parler, que vous auriez négligé. Ce thème des frontières, il vous semble aujourd'hui important à réaborder. Vous l'avez négligé?
Vous savez, ce qui est intéressant par rapport aux années Obama, c'est que, de toute évidence, il y a eu un retour de bâton, en quelque sorte, dans la mesure où il y avait un président noir. Ça, c'est certain que ça a eu des incidences, mais Barack Obama lui-même était, à titre personnel, quelqu'un de très aimé, et il était en mesure donc de dépasser cela. Et c'est ce qui lui a permis d'être élu pour un deuxième mandat de manière très décisive, même s'il y avait eu vraiment tout un remuage d'émotions autour et contre sa présidence. Mais le problème, c'est que sa popularité, donc, n'a pas pu se transférer, disons, automatiquement à Hillary Clinton ou même à quelque autre candidat démocrate à l'issue de sa propre présidence. Donc, peut-être avons-nous effectivement sous-estimé le degré auquel, disons, quelqu'un comme justement Donald Trump était en mesure de faire remonter le ressentiment nationaliste, parce que Barack Obama lui-même était capable de dépasser cela, mais c'était lié à son charisme personnel, à l'attrait qu'il exerçait sur l'électorat. Je pense néanmoins que on surestime peut-être également le retour de bâton, justement, le changement d'appréciation politique aux États-Unis. Donald Trump a reçu moins de votes de la part d'électeurs américains que Mitt Romney dans le concours contre Hillary Clinton. Mais il se trouve que Hillary Clinton, elle, est venue derrière Barack Obama. Donc je crois qu'il y a un enseignement à tirer, c'est que le changement appelle la réaction, et Donald Trump, c'est vraiment l'expression ultime de cette réaction au sens propre du terme. Pour autant, il y a encore une fois deux narratives de romans nationaux, celui qui était celui de Barack Obama et puis ensuite celui présenté par Donald Trump. Et on l'a vu d'ailleurs dans les élections au Congrès tout récemment, à mi-mandat, les Américains commencent à revenir un petit peu en arrière et reculer par rapport à ce que représente Donald Trump.
Vous avez 42 ans aujourd'hui, Ben Rhodes. Vous racontez au milieu de ces confidences qui ont été celles de Barack Obama à son proche conseiller, c'est-à-dire à vous, au milieu des événements aussi qui ont ponctué ces deux mandats du président démocrate, vous racontez la vie d'un conseiller, la vie d'une plume aux affaires étrangères qui a été la vôtre. Qu'est-ce que vous avez retenu du système politique américain, de la vie politique américaine? Elle est frénétique à vous lire?
Yes.
Frénétique, elle l'est sans doute. J'avais 29 ans lorsque j'ai commencé donc à travailler pour Barack Obama lors de sa première campagne présidentielle. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait sur les dix ans à venir. Et d'ailleurs, l'une des choses que je dis dans mon livre, c'est que la présidence américaine vous demande de réagir à tous les événements. Et ça, c'est quelque chose qui est unique au monde. C'est-à-dire qu'on attend de vous, quand vous travaillez pour la présidence, que dès lors qu'il y a une crise, il faut réagir. Il faut avoir une réaction à proposer. Alors, au-delà, bien sûr, de tout ce qu'on doit faire sur le plan intérieur, il faut effectivement réagir à tout ce qui se passe en dehors du territoire américain. Alors, il faut savoir que, à peine élu, Barack Obama avait affaire à la crise financière, et puis il y avait bien entendu la guerre d'Irak. Donc on a commencé de très bas, pour ainsi dire, et on avait l'impression effectivement de sortir du trou pendant les premières années, parce qu'il fallait gérer tout cela, plus évidemment le printemps arabe, la crise nucléaire iranienne, le changement climatique, et l'épidémie d'Ebola. Alors, tourné la page, j'étais un homme transformé, ça va sans dire. Le livre essaye justement de raconter cette histoire d'une espèce d'initiation, lorsque on passe de 29 à 39 ans, c'est l'âge de raison qu'on acquiert au milieu de cet environnement effectivement frénétique.
Et puisqu'on a souvent décrit les États-Unis comme étant le gendarme du monde depuis plus d'un demi-siècle, pour comprendre aussi qui vous êtes, Ben Woods, vous avez fait des études littéraires avant de participer à la commission du 11 novembre, avant aussi de participer au groupe d'études bipartites sur l'Irak. Vous avez donc 28-29 ans quand vous rejoignez l'équipe de campagne d'Obama. C'est peu dire que vous êtes tout jeune, presque un débutant en la matière. Quelle idée vous faisiez-vous alors du monde avant qu'elle soit façonnée à l'usage, cette idée, avant qu'elle soit façonnée sur le tas par votre pratique ?
My view of the world
À l'époque, quand j'avais 29 ans, donc quand j'ai commencé à travailler avec Barack Obama, ma vision du monde a été façonnée par deux événements, les attentats du 11 septembre et la guerre d'Irak, la guerre en Irak. Et quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais commencé à travailler sur différents thèmes. J'avais travaillé d'ailleurs avec la commission américaine qui s'était intéressée aux attentats du 11 septembre et également celle qui travaillait sur la guerre en Irak. Et ce que j'ai constaté à ce moment-là, c'est que les responsables à l'époque s'étaient trompés sur toute la ligne. C'est-à-dire que la réaction au septembre était erronée et la guerre en Irak était une erreur monumentale. Et ça m'a mis en run, ça m'a mis en colère, mais je me suis dit qu'il fallait trouver un autre dirigeant, quelqu'un qui fasse les choses différemment de la classe politique qui, à Washington, était aux affaires à l'époque. Et effectivement, j'étais bien jeune à l'époque, je me suis dit que l'ancienne génération, finalement, avait échoué et que c'était peut-être l'attitude de toute la campagne Obama en 2008 qui consistait à dire qu'il nous fallait mettre aux affaires justement une nouvelle génération avec des idées neuves. Et donc, on était certes très jeunes, mais cette jeunesse en soi était perçue comme un avantage parce que nous n'avions pas été associés aux erreurs de nos anciens au cours des 8 dernières années.
Depuis que j'ai pris mes fonctions auprès d'Obama en 2007, la seule chose dont je n'ai jamais douté, c'est que nous nous inscrivions dans une démarche juste. Certes, nous avions commis des erreurs, mais sur le projet global, il n'y avait rien à redire, écrivez-vous dans Obama Confidentiel, qui paraît donc en français aux éditions Saint-Simon Ben Rose. Quel était ce projet global ? Et est-ce que vous diriez que ce projet était idéologique, vous parlez de ces doubles récits qui s'opposaient, le récit progressiste que vous avez tenté d'écrire durant toutes ces années et le récit réactionnaire. Donc, est-ce que vous diriez que ce projet global était idéologique ou tout simplement pragmatique?
It's both.
Je dirais que ce projet global, il était à la fois idéologique et pragmatique. Idéologique dans la mesure où on s'appuyait sur une conviction, à savoir que les gens, quelles que soient leurs origines ethniques, raciales ou autres, que on peut dépasser ce qui nous divise pour travailler ensemble. Et nous avons la conviction que le pays est plus fort, que les États-Unis sont plus forts, en reconnaissant sa diversité comme constituant une force. On se dit que le monde fonctionne mieux lorsque les pays sont capables de se réunir autour d'une table et résoudre les problèmes et dépasser les conflits. Et Barack Obama représente même cette conviction que les pays et les peuples doivent travailler ensemble. Donc c'est idéologique, mais c'est en même temps pragmatique, parce que justement, si on ne collabore pas, si on ne reconnaît pas la diversité, on se lance droit dans le mur du conflit. Et donc, en fin de compte, c'est la seule façon d'éviter les tragédies ou de reproduire les tragédies du passé. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est la question fondamentale de notre époque. Est-ce que l'on revient à un modèle, un style de politique où l'on se définit en fonction de ce qui nous distingue des autres, ou bien pensons-nous qu'au contraire on puisse dépasser ces différences?
Alors, cette grande question, elle était déjà présente dans le discours de réception du Nobel de la paix en 2009 de Barack Obama, que vous avez en grande partie rédigé, Ben Rhodes, et qui suivra le même plan que beaucoup d'autres par la suite, écrivez-vous. On commençait par expliquer ce qui justifie une guerre, puis on indiquait que notre objectif devait être de parvenir à la paix en recourant notamment à la voie diplomatique. La grande question de ces 8 ans, de ces 2 mandats, la question à laquelle toutes les affaires étrangères, les diplomaties américaines sont confrontées, c'est quand autoriser une intervention militaire à l'étranger, connaissant la force de frappe américaine. C'est une option qui est actuellement examinée, selon ses mots, par Donald Trump au Venezuela, où la situation oppose le président Nicolas Maduro et le président par intérim, autodéclaré Juan Guaido.
Une grande marche pour la liberté et la démocratie. Des dizaines de milliers de Vénézuéliens ont répondu à l'appel de l'Assemblée nationale, contrôlée par l'opposition, à défiler dans le centre de Caracas. À leur tête, le président du Parlement, Juan Guaido, qui s'est déclaré président par intérim devant la foule.
Je jure... d'assumer tous les pouvoirs de l'exécutif national en tant que président par intérim du Venezuela.
L'opposition prend donc le pouvoir, pour l'instant pacifiquement, après des mois de naufrage économique, une répression politique de plus en plus marquée et un président, Nicolas Maduro, qui vient d'entamer un second mandat. Son élection boycottée par ses adversaires a été marquée par de nombreuses accusations de fraude. Donald Trump a immédiatement dit qu'il reconnaissait officiellement Juan Guaido comme président par intérim, suscitant une vive réaction du régime.
J'ai décidé de rompre les relations diplomatiques et politiques avec le gouvernement impérialiste des États-Unis. Hors du Venezuela, assez d'interventionnisme. Il y a de la dignité ici. Il y a des gens ici pour défendre ce pays.
Interrogeons justement, Ben Rhodes, si vous le voulez bien, les formes de cet interventionnisme américain qui a une longue histoire. Dans une tribune parue dans le Washington Post le 29 janvier dernier, vous avez estimé que le camp démocrate ne devait pas laisser sa colère contre le deux poids deux mesures de Donald Trump l'inciter à plaider pour un retrait de l'engagement de votre pays à soutenir la démocratie dans le monde. Mais alors la soutenir... pourquoi et la soutenir sous quelle forme? Est-ce que vous êtes-vous favorable à une option militaire?
Je suis absolument pas en faveur de l'option militaire au Venezuela. Je pense que ce serait une erreur épouvantable d'intervenir, en tout cas militairement, dans ce pays. Les guerres menées par les États-Unis à des fins de changement de régime, en général, se sont mal terminées. Et notamment justement en Amérique latine, nous avons tout un passé d'intervention militaire qui est entaché d'échecs. D'ailleurs, moi-même, j'ai négocié la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba. Et justement, nous a fallu dépasser ce passé, cette histoire. Donc, il est possible, il y a un moyen. Pour les États-Unis, d'encourager la mise en place de nouvelles élections au Venezuela par la voie diplomatique, de négocier avec d'autres pays une transition vers de nouvelles élections. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je crois que c'est quand même une solution de loin préférable à celle d'avoir un renversement par la force militaire d'un gouvernement au Venezuela.
En même temps, vous vous interrogez vous-même dans cette tribune Ben Rhodes publié dans le Washington Post sur les leçons de démocratie que l'Amérique a ou peut donner au monde aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi intervenir même diplomatiquement dans cette crise vénézuélienne ?
Well, I think the question is what the democratic legitimacy
is. Je crois que la question qui se pose, c'est celle de la légitimité démocratique du gouvernement en place au Venezuela.
Maduro
essentiellement détruit les institutions démocratiques de son pays, et tous les observateurs indépendants sont d'accord pour dire que la dernière élection a été entachée de fraude. Donc, je pense qu'on peut prendre parti et dire qu'effectivement, ce dirigeant n'a pas la légitimité démocratique. Pour autant, et dans cette tribune, j'ai dit que je n'étais pas très à l'aise avec l'idée de reconnaître ipso facto un autre président. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y avait des risques énormes associés à cette reconnaissance officielle. Parce qu'on a affaire ici à quelqu'un de jeune, mais qui ne maîtrise pas le pays, qui n'est pas en charge. C'est pas lui qui a la main sur les forces armées. Alors, je l'admire certainement, j'admire ce qu'il essaie de faire. Mais je crois que le fait que les États-Unis arrivent en disant voilà votre président, le reconnaissent comme ça de manière autoritaire, crée une situation d'incertitude. Et si Guaido demande une intervention militaire, après tout c'est possible. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là ? C'est la raison pour laquelle je me dis, certes Maduro a perdu toute légitimité en tant que dirigeant, mais la position américaine devrait consister à dire il faut de nouvelles élections pour pouvoir élire légitimement un autre dirigeant, et les États-Unis feront tout ce qu'ils peuvent pour aller dans ce sens. C'est d'ailleurs la position, sauf erreur, de l'Union européenne. Enfin, c'était la position initiale. Alors, dans un monde où il y a de plus en plus de régimes autoritaires, je pense que les États-Unis ont un rôle légitime à mettre en avant les valeurs démocratiques. Mais quand on essaie d'imposer de manière autoritaire des gouvernements à des peuples, généralement le résultat n'est pas bon.
La position américaine en Syrie, le choix de ne pas intervenir, vous l'avez défendu jusqu'au bout au nom de l'histoire aussi, au nom de ce qui s'était passé au Vietnam, au Laos ou encore en Irak, tout en soutenant militairement les opposants au régime, refusant que le front al-Nosra en Syrie soit qualifié de terroriste, organisation selon vous qui a été un temps alliée à des groupes modérés. Ça c'est pour la position que votre administration a eue en Syrie pendant ces années-là. Je reviens à ce que vous expliquiez sur l'idée du plan. D'abord, expliquer ce qui justifie une guerre, puis indiquer que votre objectif, c'est de parvenir à la paix en recourant au maximum à la voie diplomatique. Pourquoi ce plan n'a pas été suivi en Libye ?
I think the challenge in Syria
Le problème qui se posait en Syrie, voyez-vous, c'est que on avait affaire d'un côté à un dictateur, il faut bien le reconnaître, qui n'allait pas accepter quelque résolution diplomatique que ce soit. Il avait le soutien de la Russie, de l'Iran, et ce soutien allait lui permettre de rester en place et de maintenir sa propre campagne militaire contre son propre peuple, avec les conséquences humanitaires tragiques que l'on sait. D'ailleurs, à différentes étapes de cette histoire, et on le retrouve dans mon livre, j'ai en fait été en faveur d'une intervention physique en Syrie. Mais c'est Obama, lui, qui m'a convaincu du contraire, parce qu'il a fait valoir qu'il y avait en fait deux questions qui appelait une réponse. La première était de savoir si une intervention militaire était justifiée. Et certes, en Syrie, la réponse était affirmative, sur le ton des raisons, pour raisons morales. Mais la deuxième question corollaire, était subsidiaire, était de savoir si une telle intervention militaire pouvait, pouvait réussir. Et lui, son évaluation des choses, c'est qu'il n'était pas possible d'arrêter Assad dans sa démarche sans l'écarter du pouvoir par voie militaire, justement. Auquel cas, les États-Unis seraient une des parties au conflit, à la guerre civile en Syrie, ce qui n'aurait pas arrangé la chose pour les Syriens. Ça aurait été une nouvelle donne dans la guerre, ce qui s'est passé en Irak lorsque Saddam Hussein a été écarté du pouvoir dans son pays. Donc, on ne pouvait pas, si vous voulez, trouver, en tout cas assez tôt dans la crise, de voie diplomatique qui aurait pu empêcher une escalade vers la guerre civile. Et une fois que la guerre civile a effectivement pris toute son ampleur, il nous était impossible de mobiliser les moyens qui auraient permis de l'enrayer, d'y mettre fin. Donc, encore une fois, Obama estimait qu'il ne voyait pas d'option militaire qui serait en mesure de donner des résultats. Et sans, à moins d'avoir justement la certitude d'une victoire, il ne voulait pas, disons, impliquer les États-Unis dans une autre guerre, après l'Afghanistan, après l'Irak et la Libye.
Vous avez qualifié Ben Rhodes de « the blob » et je fais confiance à notre traducteur pour nous en donner une version française, Robert Wolfenstein. « The blob », l'establishment de la politique étrangère à Washington qui réunirait à la fois des politiques, la presse, des think tanks et cet establishment qui serait favorable à l'utilisation de la force militaire, à l'option militaire contre lequel vous vous êtes, vous, à plusieurs reprises élevé. Est-ce que vous avez réussi à les convaincre ? Est-ce que la tendance, la pente naturelle de la diplomatie et des affaires étrangères américaines est toujours d'envisager en premier cette option militaire?
Well, I made that comment with respect.
Alors, lorsque j'ai parlé de ce fameux blob, en fait, je me suis référé à cette demande permanente de réaction militaire de la part d'un certain establishment, en effet. Il y a une façon, disons, une espèce de pensée unique selon laquelle toutes les recommandations, toutes les pressions qui s'exercent sur un président sont finalement destinées à le pousser à la guerre. Et nous, au contraire, nous essayons à l'époque d'éviter d'entrer en guerre contre l'Iran. On voulait justement démontrer qu'on pouvait empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à la force. Mais ça supposait de travailler avec d'autres pays, notamment la France, dans les négociations avec l'Iran. Alors, on n'a peut-être pas réussi, effectivement, à convaincre ce fameux blob, à changer cet état d'esprit dans l'establishment de la politique étrangère américaine. Par contre, on a peut-être réussi mettre sur le tapis des questions qui fâchaient à Washington, des questions dérangeantes, et notamment... Qu'est-ce qui fait croire qu'après le désastre en Afghanistan ou en Irak, qu'est-ce qui pousse les gens à croire que ce genre de politique interventionniste peut être couronné de succès? Quand vous voyez ceux qui composent le camp démocratique, les démocrates, les jeunes qui viennent d'être élus, ou même la campagne présidentielle de 2020, on voit que la plupart des gens dans ce groupe-là seraient plus alignés sur la la position de Barack Obama que de celle du Blob, justement.
Alors, dans ce livre, Afghanistan, Syrie, Libye, vous revenez sur la fabrique de la décision. Vous évoquez ces aveuglements qui ont peut-être aussi, en partie, rendu la prise de décision compliquée, voire les fausses routes que vous avez pu emprunter. Mais vous revenez aussi sur les grands succès de ces deux mandats. Vous avez évoqué Cuba et les longues négociations mises en place qui ont abouti à l'accord du 17 décembre 2014. Vous revenez aussi sur l'accord de Paris et sur l'accord pour le nucléaire iranien. Il nous reste quelques secondes. Ben Rhodes, Trump a beaucoup critiqué la politique d'Obama à son arrivée à la Maison-Blanche. On se souvient notamment de ses mots sur l'accord du nucléaire iranien, qualifié de pire accord de tous les temps. Mais dans les faits, qu'a-t-il vraiment déconstruit pour vous ?
What's been very interesting about Trump.
Ce qui est intéressant sur ce dossier, et ce qui est intéressant au sujet de Donald Trump, c'est que quoi que Obama ait pu faire, il est contre. But, ça, c'est ce qui définit, en quelque sorte, Donald Trump. Mais en même temps, il lui est un petit peu difficile de déconstruire justement tout ce qui a été fait. En particulier, Donald Trump a dénoncer les accords de Paris, mais l'accord de Paris continue d'exister. Et je suis à peu près certain que le prochain président américain s'y ralliera. Pour ce qui est maintenant de l'accord nucléaire iranien, alors, jusqu'à présent, l'Europe, et c'est la France qui mène le jeu ici, l'Europe a permis à cet accord de rester en vie, de rester en place. Ce qui montre donc que, même si Donald Trump est, disons, une démarche destructive, il est un petit peu difficile de déconstruire le progrès.
Merci beaucoup, Ben Rhodes. Obama confidentiel, 10 ans dans l'ombre du président. Votre essai témoignage vient de paraître en français aux éditions Saint-Simon. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table et à Marie Placé à la réalisation avec Morgane Danan à la technique. Très bel après-midi à tous sur France Culture.